Vous êtes sur RTL.
Nous pour évoquer la mémoire d'Étienne Moujotte. Une dernière chose, Jean-Pierre Foucault. Quelqu'un me disait ce matin, au fond, c'est peu de choses d'Étienne Moujotte. C'est un homme assez secret. Derrière le travail, on sait peu de ses centres d'intérêt. Il y avait quelque chose de l'ordre de la pudeur. Et c'est vrai que Étienne Moujotte, de ce point de vue-là, est assez secret. Je ne sais pas si vous-même, vous avez réussi à percer l'homme qu'il était.
Non, difficilement. Il a caché courageusement sa maladie, par exemple, pendant des années. Sa maladie qui a frappé à sa porte en 87, déjà très très tôt. Il partait en week-end, le vendredi soir. En réalité, il partait faire ses chimios et revenait le lundi matin. Personne n'en a jamais su. On l'a compris le jour où, hélas, on a vu des stigmates sur son visage et sa chevelure. Mais il était extrêmement courageux. Mais sa vie, sa passion, c'était le journalisme, c'était la radio, c'était la télé. Le samedi matin ou le dimanche matin, vous pouviez avoir Étienne Moujotte, il était là et réglait des problèmes. Donc il n'a vécu pratiquement que pour ça, avec celles et ceux qu'il aimait.
Mais merci beaucoup Jean-Pierre Foucault, merci d'être intervenu sur cette antenne d'RTL que vous aimez tant et qui vous le rend bien. Merci Jean-Pierre Foucault, il est 13h03.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Mais avant cela, le rappel des titres, Amandine.
Et à la une, ce dernier adieu de Marseille à Bernard Tapie. Obsèque à la Major, la cathédrale de Marseille. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL. La cérémonie est toujours en cours.
Oui, tout à fait. L'Ave Maria est en train de résonner à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. On a entendu l'un des hymnes de l'Olympique de Marseille, du groupe Queen, We Are The Champions, joué au violon. Ça lui donnait un côté très solennel. Alors il y a plus de 1500 personnes à l'intérieur de cette église. La famille, elle est proche de Bernard Tapie, des grands représentants d'entreprises. On a vu Xavier Niel, on a vu Christophe Castaner également être présent pour ses obsèques. Et puis à l'extérieur où je me trouve, il y a plus de 1500 Marseillais, également des supporters de l'OM, mais pas seulement, voilà, des gens qui sont venus rendre un dernier hommage à Bernard Tapie, qui va dans quelques minutes quitter cette cathédrale pour aller rejoindre sa dernière demeure au cimetière de Mazargues, au sud de Marseille.
Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL. Sachez par ailleurs que le prix Nobel de la paix est distribué ce matin à deux journalistes, une philippine et un russe. Maria Ressa et Dmitri Mouratov sont récompensés pour leur combat pour la liberté d'expression dans leur pays respectif. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Valérie Quintin. Ça continue un beau week-end en perspective.
Ah oui,
ouais,
oui,
c'est vrai que ça va être pas
ça me réveille, Pascal.
Alors attention quand même, il va y avoir pas mal de brouillard demain matin. Et puis dans l'après-midi de demain, on pourrait avoir un ciel quand même un petit peu plus nuageux entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Ça pourrait aller jusqu'à l'Ondée sur le relief Corse. Pour les autres, c'est du ciel bleu. Dimanche, à peu près la même chose avec un ciel un petit peu plus nuageux l'après-midi le long des côtes de la Manche. Tout cela avec des températures qui seront encore à peu près stables. 4 à 15 degrés le matin, c'est vrai que ça pique un peu entre les Ardennes et la Corse. 15 à 24 demain après-midi avec 17 à Annecy, 19 à Limoges, 20 degrés à Paris et Poitiers, 22 à Perpignan, 23 degrés à Menton.
Attends.
Même température pour la journée de dimanche. On devrait avoir un peu plus froid à partir de mercredi. Là, on va repasser en dessous les normales.
Ah. Oui, mais là, 20 degrés ce week-end et un soleil.
C'est week-end.
Voilà.
Magnifique. Merci, week-end d'octobre. Merci Amandine, on vous retrouve ce soir.
Oui, 19h15, ils refont la France. On décrypte l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère. On parlera notamment gastronomie. La France était toujours la capitale de la gastronomie.
Ah, ben, oui.
Non, mais on dégringole dans tous les classements, c'est l'horreur.
Oui,
ouais, vous verrez.
Ah bon, ça c'est dommage. Et 13h05.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les établissements scolaires, vous le savez, sont invités par le ministère de l'Éducation nationale à rendre hommage le 15 octobre, c'est vendredi prochain, à l'enseignant d'histoire-géographie Samuel Paty, un an après son assassinat, pour avoir montré en classe les caricatures de Mahomet. Nous sommes avec Albéric, qui est directeur d'école à Noisy-le-Grand. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez des instructions précises? J'ai l'impression que c'est plutôt laissé à votre discrétion.
Oui, et je pense que c'est bien, dans le sens où, de toute façon, moi, je vais faire le choix avec mon équipe pédagogique de marquer ce moment. Nous avons un contexte très riche dans notre école. C'est très pluriel, c'est une école laïque, mais elle est très plurielle. Nous avons des musulmans, des chrétiens, nous avons aussi des juifs et des humanistes. Et donc, ça va être un moment de recueillement.
Vous avez
et de
des juifs avec des musulmans dans votre école? Parce qu'on dit parfois que dans la région parisienne, juifs, les juifs français,
c'est
ont préféré des écoles confessionnelles.
C'est c'est vraiment exceptionnel parce que ils sont vraiment en minorité en effet, mais ils sont vraiment là. Ils apportent justement quelque chose qui est fort. Yom Kippour qui a été fêté dernièrement, il s'est retiré. L'enfant n'était pas là pendant un ou deux jours et on le comprenait très bien. Donc voilà, il y a une vraie tolérance dans cette école, mais en même temps un vrai respect en raison de cette tolérance parce qu'il y a un vrai respect de la laïcité.
Qu'est-ce que vous allez proposer?
Alors on va proposer, on aime bien se rassembler tous ensemble dans l'espace court et nous marquons de temps en temps des minutes de silence comme ça. Moi j'ai eu cette très belle expérience pour le président quand le président de la République nous a demandé, le président Hollande nous a demandé des hommages. Ça a été fait. Ça demande de la préparation. Et ça demande vraiment de relire après les événements et le relire aussi avec les parents. Donc, vous voyez, Pascal, sur le plan interne, ça se passe bien. Mais moi, j'ai quand même peur. J'ai peur parce que je ne maîtrise pas ce qui se passe en dehors de l'école. Et il faut savoir que les réseaux sociaux scolaires sont cette insécurité de l'école dont a fait les frais Samuel Paty. L'interprétation. Samuel a été quelqu'un de très bienveillant, de vraiment, sur le plan pédagogique, extraordinaire dans la classe quand il a lancé le débat et avec un respect humain, mais ça n'a pas été interprété de la sorte. Et vous voyez, moi, cette minute de silence, je peux pas la mettre en valeur comme un vrai trésor qu'il l'est en réalité sur mon site et sur la présentation de l'école, parce que les gens qui s'y retrouvent s'inscriront bien sûr dans cette école, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont interpréter, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est là où ça met en danger mes élèves, ça met en danger mes parents et particulièrement les musulmans, qui vont peut-être être considérés comme des traîtres, alors qu'en fait, tout simplement, ils vivent leur foi au cœur de la laïcité, dans une vraie harmonie, une vraie tolérance, et ça va mettre en danger mes professeurs et moi-même.
Et donc, il y a quand
même une peur. Il y a quand même une peur.
C'est-à-dire que c'est l'autocensure, c'est-à-dire que vous vous autocensurez parce que vous avez peur. Alors d'abord, on peut vous comprendre, mais en même temps, ça révèle la société dans laquelle nous vivons. Et ça révèle aussi pourquoi certains parents sont réticents à l'idée d'un hommage à Samuel Paty. Et ça dit aussi pourquoi certains maires ne veulent pas nommer une école Samuel Paty, parce que c'est désigner, peut-être, pour certains, cette école comme une cible. En tout cas, certains parents l'interprètent comme ça. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est même horrible et c'est glaçant.
Oui, mais Samuel Paty mérite d'avoir eu un nom de son école, mais quand les choses se seront reposées, quand les choses auront bénéficié d'une pédagogie et d'un temps. Il faut du temps, parce que...
Oui, mais c'est démissionner, c'est baisser les bras
non,
de dire ça.
Non, on ne brûle pas les étapes. Je pense que d'abord,
Il faut
former.
Pour le coup, vous faites le... Comment dire? C'est toujours pareil, vous acceptez la peur.
Ah non, je l'accepte pas parce que moi je vais le faire. Mais je n'accepte pas cette insécurité qui est en train de s'imposer à travers les réseaux sociaux scolaires. Et là, il y a vraiment une politique à faire.
Merci Albéric, merci beaucoup. On va continuer évidemment ce débat. Je salue Damien Béchiot.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
C'est vendredi. Sounds good, it's Friday, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière.
Hein,
mais je pourrais le dire tous les vendredis.
L'accent est toujours aussi bon, Pascal.
Et c'est un accent que j'ai travaillé toute la semaine. Il est 13h10, toute la semaine. C'est un sujet grave que celui de Samuel Paty. On pourra également parler de la télévision. Ça, c'est infiniment plus léger, puisque à l'occasion de la mort de Étienne Moujotte, comment vous regardez la télévision aujourd'hui? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous la regardez toujours en famille, comme jadis? Ou est-ce que chacun regarde le programme qu'il veut dans sa chambre et la famille n'existe plus pour partager, comme on le faisait jadis. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il donner le nom de Samuel Paty à plus d'écoles? Les établissements scolaires sont invités par le ministère de l'Éducation nationale à rendre hommage au professeur vendredi prochain. Et la toute première école maternelle en France à porter le nom de Samuel Paty est à Cap d'Aille, dans les Alpes-Maritimes. Certains parents sont inquiets pour leurs enfants.
C'était très bien d'honorer ce monsieur, mais je pense qu'une école maternelle est très déplacée.
Je pense déjà de changer d'école, de la mettre à Monaco. Au moins, je sais que, il est en sécurité.
Eh bien, le maire de la commune, Xavier Beck, a réagi dans RTL Midi.
Aujourd'hui, l'école Samuel Paty fonctionne tout à fait normalement, sereinement, avec une immense majorité, pas simplement des cadres, mais également des parents qui comprennent tout le sens de cette dénomination. Il faut être sérieux. Je crois qu'en fait, il y a une arrière-garde qui est pour des motifs politiques qui sont, de mon point de vue, pas très honorables au regard de la cause que nous cherchons à défendre. Ce sont les mêmes qui disent qu'ils ont très peur et qui inscrivent quand même leurs enfants au centre de loisirs dans la même école. Il faut véritablement inscrire dans le marbre le nom de Samuel Paty, qui doit rester dans l'histoire de notre pays comme un professeur courageux.
Faut-il rendre hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles du pays? 3210-3210.
La messe d'obsèques de Bernard Tapie s'achève. Il y aura eu deux messes d'obsèques. Ce sont les deux messes identiques, celle de Saint-Germain-des-Prés comme celle de la cathédrale La Majeure à Marseille. Et à l'instant, le cercueil a quitté la cathédrale. Le pasteur Marcel, qui avait pris la parole à Saint-Germain-des-Prés, mais également aujourd'hui à Marseille, est là, autour du corbillard. Et le cercueil a glissé il y a quelques secondes dans le corbillard devant tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui, pour l'occasion, ont allumé des fumigènes, ont brandi des écharpes et chantent « We are the champion » pour accompagner le cercueil de Bernard Tapie sous le soleil aujourd'hui de Marseille. Nous sommes avec François. Bonjour François, vous êtes cadre commercial dans le Nord. Est-ce qu'il faut honorer la mémoire de Samuel Paty?
Bien sûr qu'il faut honorer la mémoire de Samuel Paty. Je pense qu'on peut comprendre les inquiétudes. On peut comprendre les inquiétudes et de certains par rapport à l'utilisation et l'exploitation malveillante qui serait faite de cet hommage. Mais lui rendre hommage, c'est aussi faire honneur au travail qu'il a fait. C'était un prof d'histoire. Il y a quelque chose de sacré dans l'enseignement. Il y a quelque chose on ne doit pas toucher un prof quelque part. Surtout quand il enseigne des valeurs comme Samuel Paty les enseignait, tout le monde l'a dit. Et déjà, lui rendre hommage, c'est important. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé. Alors, on peut lui rendre hommage sous plusieurs formes. Ça peut être une minute de silence. Ça peut être aussi libérer la parole des parents, des enfants, des élèves, pour qu'on puisse parler de ça sereinement, avec beaucoup de quiétude. Parce que je pense qu'il faut aussi dépassionner la chose, rendre hommage à un homme, à ce qu'il a fait. Et c'est aussi faire honneur à sa mémoire, c'est faire honneur à notre démocratie. On ne doit pas tomber dans la peur, on ne doit pas tomber dans l'angoisse. Ne pas lui rendre hommage, ce serait donner raison à ceux qui ont fait ça et à ceux qui propagent ces idées et qui nuisent même à tous ceux qui veulent vivre leur foi dans la paix, dans le partage, dans le. Enfin voilà, on peut vivre sa foi tranquillement, gentiment, en partageant, en échangeant. Et ce serait de rendre beaucoup trop d'honneur aux gens qui ne veulent pas que ça se passe comme ça chez nous, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la France soit un pays où on se batte entre nous, où on ne soit pas d'accord. Non, rendre hommage à Samuel Paty, c'est lui faire honneur d'abord à lui, d'abord à sa famille qui a eu à supporter ce drame, et puis c'est faire honneur aussi aux enseignants et à notre démocratie, à notre République.
Bah écoutez, j'ai envie de dire, vous avez bien parlé, François. Maxime est là également et qui peut aller dans le même sens que vous. Bonjour Maxime.
Bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien.
Mais ça va bien, mais le sujet effectivement est lourd.
Oui, est particulier, mais je n'ai pas grand-chose à dire, à part, comme l'auditeur précédent, ne pas rendre hommage à Samuel Paty, c'est les laisser gagner et les laisser faire. Moi, ce qui m'agace un peu dans tout ça, c'est qu'on n'ose se poser la question en se disant est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Maintenant, de là à faire une minute de silence dans une école, je comprends que ça peut être compliqué. Connaissant et puis en ayant entendu parler de Samuel Paty, moi je serais plus pour un moment de partage, de communication justement, parce que c'est ce qu'il prenait. Voilà, après, il ne faut pas se poser la question. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont rien à faire dans une école laïque et de la République. Voilà, après, au bout d'un moment, ça c'est vraiment mon avis personnel.
Mais non, mais je pense qu'on est beaucoup à partager. Ce qui est terrible, c'est la peur, parce que la peur est mauvaise, conseillère.
Bien sûr.
La difficulté dans les régimes totalitaires, elle est là. Alors évidemment, lorsqu'il y a des actes de ce type, on n'est pas dans un régime totalitaire, mais lorsqu'il y a des actes de ce type, certains peuvent avoir peur et préférer mettre la poussière sur le tapis. Ça veut dire quoi mettre la poussière sur le tapis? Ça veut dire on ne nomme pas une école Samuel Paty parce qu'il y a un risque. On ne fait pas un hommage vendredi prochain parce qu'il ne sera peut-être pas respecté par tout le monde, etc. etc. C'est ça, baisser les bras, en fait.
Si vous voulez mon point de vue, en plus,
au Cap d'Agde. Je crois qu'il y a d'autres endroits qu'une école pour vraiment, si demain des djihadistes voudraient taper au Cap d'Agde, à mon avis, ce serait...
C'est le Cap d'Agde, hein, c'est le Cap d'Agde. Ouais. C'est-à-dire que vous trouvez regrettable que l'école ait pris le nom de Samuel Paty ?
Non, du tout. Au contraire. Et puis surtout, dans le temps, on sait très bien que malheureusement, ça va se perdre. Et dans 50 ans, on se demandera qui était ce monsieur. Enfin, donc, malheureusement. Donc, mais au moins, on laisse une trace et on laisse... Moi, je suis pour...
C'est le principe de l'histoire. Hein. On donne parfois des noms de lycées ou de collèges à des héros ou à des martyrs de notre histoire. Merci, Maxime. Une pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur R+. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier.
C'est la question qui vous fait réagir au 32-10. Faut-il rendre hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles du pays ? Les établissements scolaires sont invités à le faire vendredi prochain, un an après son assassinat, pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Et vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL, à Conflans-Sainte-Honorine, lieu du drame, des parents s'inquiètent des conséquences psychologiques.
Du jour au lendemain, bâtonnet, il va y avoir un hommage. On n'en a pas parlé depuis le début et on n'en parle qu'au mois d'octobre. Et c'est bim, on se remet dedans quoi. Le fait de reparler de la mort, tout ça, ça fait un peu un choc émotionnel pour les enfants.
Comprenez-vous ces inquiétudes ? Yannis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, était l'invité de RTL ce matin.
Dans certains établissements, il semblerait que certaines équipes pédagogiques ne veuillent pas tout simplement faire de commémoration, de peur simplement d'avoir à affronter les discours de certains élèves. Donc, si cela est attesté, c'est la République qui recule. Et cela, de mon point de vue, c'est absolument inacceptable.
Faut-il rendre hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles du pays ? 32-10, 3-2-1-0.
Et vous voyez le premier témoignage de cette femme qui est une mère... une maman d'enfant, hein, d'élève, je trouve qu'il révèle la société d'aujourd'hui. Personne n'accepte l'autorité, en l'occurrence, de l'État. Cette maman, elle dit, voilà, on ne nous a pas consulté, on ne nous a pas demandé, on nous remet un hommage et bing, dit-elle. Bon, ça illustre la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à 30 ou 40 ans, personne n'aurait contesté que l'État impose un hommage dans une classe. Et aujourd'hui, vous tirez le fil de l'autorité et vous avez la société française. Personne n'accepte l'autorité qui ils viennent dans l'entreprise, dans un vestiaire de foot, dans une classe d'école, etc., etc. Elisabeth est avec nous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Vous êtes maman au foyer, vous habitez la Moselle. Votre sentiment ?
Eh ben moi je suis pour qu'on rende hommage à Samuel Paty. Je peux comprendre qu'on se remette en tête la décapitation de Samuel Paty, que ça soit dur psychologiquement. Moi pour moi surtout pour ceux et celles qui ont été témoins directs de la scène. Mais comment, à mon humble avis, cette commémoration, ça sera comme une piqûre de rappel pour ne pas oublier. Pas oublier qu'en France, il y a des établissements où les professeurs ne peuvent pas enseigner les programmes sous peine de froisser une minorité. Et rappeler aussi que l'enseignement, c'est pour tout le monde pareil, c'est pas un enseignement à la carte.
Oui, mais alors, ce que vous avez, Monsieur Roder, qui est professeur d'histoire dans les quartiers, comme on dit, et qui a avant que des équipes pédagogiques ne veuillent pas honorer la mémoire de Samuel Paty et qui conclut en disant « la République recule si on ne le fait pas », il traduit aussi une réalité, c'est-à-dire que vous allez avoir dans certaines classes des réticences.
Oui, mais le problème, c'est la réticence de certains, ça inquiète quand même. Parce que pour moi, c'est le sentiment qu'on baisse les bras. On laisse la peur
prendre dessus. On baisse les bras parce qu'on a peur.
Et en France, on est en France, on est NAIT français, donc on se doit de respecter les principes de la Constitution, de la laïcité, etc. Donc je veux dire, c'est quand même le rôle aussi aux enseignants, parce qu'apparemment, les parents...
Oui, mais les enseignants, ils n'ont pas envie de se heurter parfois à une partie de la classe qui n'adhère pas à cet hommage.
Bah oui, mais c'est le rôle quand même de l'enseignant. Je sais, il y a la peur, bien sûr, mais c'est quand même le rôle de l'éducation nationale, des enseignants,
bien sûr,
de rappeler ces valeurs-là.
Mais c'est l'autocensure. Mais vous savez, il y a plein de sujets qui ne sont plus ou qui ne seraient plus à aborder. Je vais utiliser le conditionnel dans les classes parce que ça peut heurter les élèves qui sont dans la classe. Donc, notamment, par exemple, la théorie de l'évolution. Il y a des gens qui pensent qu'on est arrivé sur Terre tel que nous sommes aujourd'hui. Bon, c'est compliqué d'entamer la conversation dans ces cas-là.
malheureux de voir comment malheureusement la société a évolué. Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais au collège, au lycée, déjà, on parlait jamais du problème de la laïcité. C'était jamais...
Je suis d'accord avec vous. Ce mot-là, voilà. Il a 20 ans. Jamais j'ai entendu, moi, dans les classes, le problème de la laïcité. Parce qu'on la vivait tellement bien qu'il n'y avait pas besoin de le dire, en fait.
Mais en fin de compte, à partir du moment où on a mis le doigt dessus, c'est là aussi où ça a posé un problème.
Bien sûr. Mais c'est comme le mot « vivre ensemble ». Moi, j'ai jamais entendu le mot « vivre ensemble » dans les années 70. C'est de la novlangue qui est arrivée ensuite. Et vous avez parfaitement raison. Les valeurs de la République, j'ai jamais entendu ça dans les années 70. Jamais.
Non, on n'en parlait pas. Pour nous, c'était normal, on l'acceptait, mais on respectait. Et maintenant,
en fait, tous ces débats n'existaient pas puisqu'il n'y avait précisément pas de conflit.
Ben
donc,
oui.
C'est très intéressant ce que vous dites, Elisabeth.
Et c'est merci aussi aux réseaux sociaux et tout ça, parce que ça aussi, ça, malheureusement, bon, il faut une évolution, mais pas non plus sur les bons points.
Bon, Nassim, pour terminer cette discussion, il fait beau d'ailleurs en Moselle aujourd'hui, Elisabeth ?
Il fait très beau, enfin, beau ciel bleu, etc. Bon, ça pinçait ce matin, on avait 4-5 degrés.
Ah, bah oui. Là, oui, l'hiver, parfois, ça, en Moselle, même si les hivers sont plus doux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient...
C'est vrai qu'on n'a plus les moins 25 qu'on avait il y a X années en arrière.
Ah oui, vous avez eu jusqu'à moins 25.
Oui, enfin bon.
Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Elisa ? Ça conserve, oui. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Quel est le programme ?
Ce week-end, je pars voir ma maman parce qu'on va déposer notre fils pour qu'il passe son permis de conduire en express.
Ah bah oui, parce que alors, quand on manque son permis de conduire, il faut 3 mois avant de le repasser, donc c'est pas facile. Hein. Bonne chance à lui.
Lui, non, il va le faire en une semaine, voilà.
Bon bah ça c'est bien. Bah écoutez, bon week-end, Elisabeth.
Bon week-end, merci à toute l'équipe.
Merci à vous. Dans une seconde, Nassim, et après on parlera de la télévision. Comment vous regardez la télévision ? Vous écoutez la radio ? Vous regardez la télévision, Damien Béchiot ?
Ça m'arrive, oui.
Qu'est-ce que vous aimez bien, par exemple ?
J'aime bien regarder des films ou des séries à la télé.
Sur la 6 ?
Évidemment.
Bien évidemment.
Sur la chaîne du
Je n'ai qu'une chaîne d'ailleurs, c'est la 6.
Ah bon ?
Oui. Alors, quand je suis ici, je n'ai qu'une chaîne.
Peut-être une chaîne sur une autre.
Autrement, j'en ai une autre.
Mais vous êtes dedans. C'est déjà difficile de regarder.
Ah, oui. Il y en a qui se regardent dedans, effectivement. Oui. Ça, c'est des grands malades, quand même, ceux qui se regardent
vous
dedans.
Vous ne regardez pas les replays. Vos replays.
Non. Il est 13h28. Monsieur Boubouk ! Il est là, monsieur Boubouk, aujourd'hui ?
Mais bien sûr, tout le temps, Pascal.
Comment ça va ?
Ça va et vous ?
Alors là, vous vous apprêtez à passer un week-end au Louvre. Je sais que vous êtes très culturel le week-end. Bah, écoutez, est-ce que vous allez aller dans l'isoloir ce week-end, cher ami ?
J'ai beaucoup appris hier.
Je vous aime beaucoup. 13h28, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 3210 sur d'autres sujets, d'autres questions. Comment regardez-vous la télévision ? Suivez-vous les programmes en direct, en replay ? Regardez-vous toujours les chaînes historiques ? Vos soirées se passent-elles désormais devant les plateformes ? Parlons ensemble de la télé. L'ancien dirigeant emblématique de TF1, Étienne Moujotte, est décédé hier à l'âge de 81 ans. Et on lui doit notamment... Qui veut gagner des millions ? Jean-Pierre Foucault était avec nous dans RT Midi, il nous a raconté une anecdote.
Il connaissait parfaitement le temps pour tel ou tel programme. Je vous donne un exemple. Pour Qui veut gagner des millions ? Ce programme est arrivé sur le marché, si je puis dire, fin des années 90. Là, il m'a dit, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que le public ne va pas comprendre qu'on distribue tant d'argent, etc. Déjà qu'il y avait l'étiquette de la téléfric, il n'a pas voulu. Il a attendu et en 2000, il a dit, c'est maintenant. Et il avait raison, c'était maintenant, c'était en 2000, et l'émission a connu le succès que vous savez, voilà.
Dites-nous aussi quelle est l'émission qui vous a marqué ces dernières années, par exemple, Le Juste Prix ? Ou alors peut-être Interville ? Ah, ou sinon, Loft Story.
Coupé du monde.
Philippe ?
Laure.
Aziz. Le Loft, Pascal.
Loana. Loft, Jean-Edouard. Sur M6.
Oui, Julie. Exactement.
TV. Mais c'est vrai, quelles sont vos habitudes de télé ? Il y a des nouvelles habitudes de télé. Dans le temps, il y avait 3 chaînes et la famille regardait ensemble le même programme. Ce qui fait d'ailleurs qu'on avait les mêmes souvenirs. Les gens qui sont nés comme moi en 64 ont les mêmes souvenirs. On a regardé La Maison de Toutou ensemble. On a regardé Arsène Lupin. On a regardé Brock et Schnock. Vous connaissez Brock et Schnock ?
Brock
et Schnock, c'était les visiteurs du mercredi.
Dis-moi, Brock, pourquoi tu mets de la colle dans ma confiture ?
Tu ne te souviens pas, Brock et Schnock ? On a regardé L'île aux enfants. On a regardé plein de programmes. ensemble. On a les Mystères de l'Ouest, Amicalement Vôtre, tout ça, Guy Lux. On a les mêmes souvenirs.
Maintenant, c'est chacun dans son coin.
Ah ben, les gosses n'auront plus les mêmes souvenirs, par définition. Oui. Il y a 300 chaînes. Donc, on va terminer simplement l'hommage à Samuel Paty avec Nassim, qui est ingénieur et qui habite près de Conflans, pour conclure cette séquence. Évidemment qu'il faut un hommage à Samuel Paty et Nassim.
Oui, oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Oui, je pense en effet qu'il faut rendre un hommage. Mais aujourd'hui, la minute de silence, ça me renvoie à ce qui s'était passé à la minute de silence qui avait été faite pour les équipes de Charlie Hebdo, suite au massacre des équipes de Charlie Hebdo. C'est aujourd'hui, quelle est la finalité de l'école? Moi, aujourd'hui, je pense que plus qu'une minute de silence, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure outil, ce soit plutôt une heure.
Mais elle ne sera pas obligatoire, la minute de silence. Justement, c'est laissé à discrétion de tous les établissements.
Oui, oui, mais je pense que de s'en offusquer ou de s'énerver sur une minute de silence, je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, on dise, en effet, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave qui touche nos valeurs, qui touche notre cohésion. On parlait tout à l'heure du vivre ensemble, enfin, en tout cas, les valeurs qui nous permettent de vivre tous unis sous les mêmes valeurs. Ben, se poser un moment, qu'est-ce qui a été touché, et remettre tout ça sur la table avec des élèves et leur expliquer. Faire une minute de silence, et allez, on fait une minute de silence, et puis hop, maintenant c'est la récré. C'est pas ça. Prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est grave, pourquoi on a tous été atteints, pourquoi il y a une telle émotion, et pourquoi plus que, et en plus donner bien les éléments de compréhension, expliquer même que le papa qui nous expliquait qu'il avait été offusqué, que sa fille avait pu assister à ça, enfin, d'après ce que j'ai compris, sa fille elle s'était fait virer du collège. Pour qu'on puisse se faire virer du collège au bout de 3 semaines, je pense qu'il a 2-3 choses à s'offusquer avant sur l'éducation de ses enfants, ce monsieur. Bon, ouais, voilà. Je pense que au niveau du rôle de l'éducation nationale, il serait de prendre une heure et d'expliquer de la pédagogie. Parce qu'une minute de silence, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus efficace et qu'on fasse passer le message. On est juste sur, on interrompt, paf, on fait une minute de silence. C'est pas la meilleure chose.
Bah, merci Nassim, vous étiez le dernier auditeur sur ce sujet grave.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Olivier Guilleneuf est avec nous, cher Olivier.
Olivier Guilleneuf ?
Non, Olivier.
Olivier Guénec.
Oui, pourquoi je vous ai appelé ? Excusez-moi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Vous voulez plus d'Olivier Guénec, donc.
Non, excusez-moi. Bon,
je suis piétiné dans
mais
cette
non,
émission,
désolé,
quand même.
Olivier.
Mais il y a un moment.
Pardonnez-moi.
Pas de soucis.
Excusez-moi,
bon, allez,
Olivier.
Plus sérieusement, sur nos réseaux sociaux, Séverine nous écrit faire un hommage à Samuel
Séverine,
Paty. C'est indispensable. Ce sont nos valeurs que l'on défend. Position partagée par Elisabeth. Il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est de notre devoir de mémoire et on termine avec Antoine. Comment est-ce possible de se poser la question de commémorer ou non? Si on ne le fait pas, ça recommencera.
13h37, une pause. On parle de la télévision d'aujourd'hui à l'occasion de la mort d'Étienne Moujotte. Comment vous regardez la télévision? Comment vous la consommez? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ça, c'est une petite musique ancienne, c'est quoi ça?
C'est à moi, pardon.
C'est la maison de Toutou.
As, je ramasse.
C'est votre imitation de tout à l'heure, Pascal?
C'est Brock et Schnock?
Tout à fait.
Ah, Brock et Schnock, ah oui.
Ah, c'est si
bien. Hyper bien.
Dis-moi, Schnock.
Je refuse de continuer à jouer si ton chef-d'œuvre ne se tait pas.
C'était animé par Claude Pierrat. Nathalie, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Vous avez un fils de 15 ans et vous regardez beaucoup la télévision tous les deux?
Oui, tous les trois, avec mon mari quand il est à la maison.
Bon, qu'est-ce que vous regardez? Par exemple, qu'est-ce que vous avez regardé hier soir?
Alors, hier soir, nous avons regardé les informations, donc une chaîne où vous êtes principalement le héros.
Ah bon,
Donc tous les soirs, de 18h à 21h, c'est la même chaîne, c'est mon fils qui choisit, on aime aussi beaucoup. Hein,
vous regardez 3 heures consécutives la télévision entre 18h et 21h?
Oui, bon, on fait d'autres choses, mais de 20h à 21h, on ne quitte pas la télé, hein, tous les
D'accord.
trois.
D'accord, et après, vous avez regardé quoi?
Ensuite, les hommes ont regardé le match.
Ah oui, les hommes ont regardé le match. Et vous avez fait quoi?
Moi, j'ai fait du repassage.
Bon.
Mais je regardais aussi.
Mais par exemple, depuis ce matin, vous avez allumé la télé ?
Oui, on allume la télé quand on se lève et on met les informations.
Ah, vous regardez. Alors, vous regardez combien d'heures par jour la télévision ?
Une heure le matin, et puis ben, l'après-midi, quand on est le week-end, on regarde un peu l'après-midi, et sinon le soir, de 17h à 23h.
Bon, vous diriez que vous êtes plutôt des accros à la télévision ?
Des accros aux informations et au sport. Après, tout ce qui est télé-réalité, tout ça, nous regardons... Je ne sais pas si je peux citer le nom des émissions.
Mais si, vous pouvez citer, parce voilà, qu'effectivement...
Tant que c'est dans le groupe M6, vous pouvez, Nathalie.
D'accord. Non,
donc,
mais...
nous regardons Koh-Lanta et L'amour est dans le pré.
Bah, L'amour est dans le pré, voilà. Effectivement, c'est sur M6, c'est formidable. Depuis votre plus tendre enfance, quelles sont les émissions de télévision qui vous ont le plus marqué ?
Alors, c'était des séries télévisées, comme dont vous avez parlé, Amicalement Vôtre, Zorro, Zorro à la route. Un peu plus tard, c'était Sacrée Soirée, évidemment. Après, L'île aux enfants, oui, moi je suis un petit peu avant vos générations, mais pas beaucoup. Hein. On se rapproche tous les deux, donc je me suis retrouvée un petit peu dans ce que vous avez cité tout à l'heure, dans les émissions. Vous
voici
avez cité.
Venu le temps de l'île aux enfants. Bonheur. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps.
Le printemps.
C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin. Mais bien sûr, avec Julie, François, le facteur, Casimir, formidable.
Mais oui.
Bah oui, mais c'était.
Il y avait Candy,
bien sûr.
Beau. Maintenant, les dessins animés, c'est un petit peu...
Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a les mêmes souvenirs. Aujourd'hui, votre fils, par exemple, il n'aura peut-être pas les mêmes souvenirs que ses petits copains.
Non, sûrement pas. Mais après, mon fils, c'est beaucoup... Enfin, il adore la politique, en fait. Donc, il rate aucun débat politique, aucune émission. Enfin, il regarde tout le temps. Les dernières élections, il a pu vous dire exactement... le pourcentage...
Il sera journaliste. Quand on a 15 ans, qu'on est intéressé par l'actu, comme ça, il sera peut-être journaliste.
Là, il est en première, il a choisi option sciences politiques, donc on verra
bien. Oui, non, mais c'est, vous savez, l'actu, c'est marrant, parce qu'il y a des gens, et alors, il ne faut pas leur faire leur reproche, ils ne s'intéressent pas à l'actu, mais ils ne s'y intéresseront jamais. Et quand tu commences à t'intéresser à l'actu, tu as 9, oui, même parfois 8, 9, 10 ans, et puis tu ne sais pas pourquoi, tu t'intéresses, et peut-être que tu es dans un cadre familial, mais pas forcément. Et puis tu t'intéresses à la vie du monde, et puis tu finis journaliste. Merci Nathalie.
Merci à vous Pascal.
Vous avez un institut de relaxation ?
Oui, c'est ça.
Ah, ça, c'est
je masse et je détends les gens qui sont très stressés.
Ah, donc par exemple, monsieur Olivier de la page Facebook peut venir vous voir ce week-end.
Ah, avec grand plaisir.
Voilà,
dans le Haut-Rhin, vous pourriez le masser.
Voilà.
En tout bien, tout honneur, bien évidemment.
Bien sûr.
Magnifique commune dans le vignoble. Donc on vous fera goûter des très bons vins d'Alsace.
Ah, écoutez, ça sera avec plaisir. Et un petit massage. Alors, combien ça coûte un massage ? Par exemple, un massage des pieds ou un massage du dos ?
Oui, un massage des pieds de 45 minutes, il faut compter. Bon, ça sera très cher, il faut compter une trentaine d'euros.
Et j'ai le budget, c'est bon.
Complet.
Et massage complet, c'est...
Il faut compter une cinquantaine d'euros.
Une cinquantaine d'euros. Bon, bon écoutez...
Après, il faudra vous réveiller, parce qu'en général, les gens s'endorment.
Ah oui, mais Olivier, oui. Je pense qu'il ne va pas s'endormir, Olivier. Bon, merci Nathalie.
Est-ce que je peux faire un bisou à mon mari ? Nous sommes mariés il y a un mois.
Non !
Je l'écoute tous les jours, oui.
C'est pas vrai, mais alors vous êtes mariés il y a un mois, mais vous aviez déjà un garçon ?
Oui, c'est ça.
Ah, c'est génial ça. Alors, et vous êtes mariés à l'église ou civilement ?
Non, civilement, à la mairie.
Donc, et vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Depuis 3 ans.
Ah oui, donc c'est pas le père
non,
de
c'est pas le
votre.
Papa de Lou.
Ah oui, j'avais compris que c'était le. Il s'appelle comment votre fils ?
Il s'appelle Lou.
Lou ! Eh bien écoutez, Lou. C'est marrant, moi j'ai une fille qui s'appelle Lou. Mais vous, c'est Lou avec un P.
Non, L-O-U.
L-O-U. Bah écoutez, voilà. C'est un prénom mixte, manifestement. Merci Nathalie, merci beaucoup. Et puis alors, votre mari, il s'appelle comment ?
Il s'appelle Stéphane.
Eh bien, on embrasse Stéphane. Il est où là, Stéphane ?
Voilà, il doit être au travail à Strasbourg.
À Strasbourg. Eh bien, écoutez, on embrasse Stéphane de Strasbourg.
C'est gentil. Merci, Pascal.
Il est 13h46. On parle de télévision. Comment vous regardez la télévision ? Voilà un bon sujet. Est-ce que vous la regardez en famille ou pas ? Et quels sont les programmes que vous préférez ? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RFR. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Une autre question qui peut vous faire réagir au standard. Faut-il dire Madame le ministre ou Madame la ministre ? À l'Assemblée nationale, la ministre Barbara Pompili a répondu au député Les Républicains Julien Aubert qui refusait de féminiser le nom de sa fonction.
Je demande de manière très claire à être appelée Madame la ministre. Si monsieur le député ne respecte pas cela, il sera appelé monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité.
Non, madame la ministre. Non, non. Si monsieur Aubert vous appelle madame le ministre, c'est un usage validé par l'Académie française. En revanche, monsieur la rapporteure, ça ne l'est pas. Je regrette.
Non, non.
Indépendamment de ce qu'on peut en penser, ne nous livrons pas ce genre de provocation, je vous prie.
Alors, faut-il dire madame le ministre ou madame la ministre? 32-10. Et avez-vous l'impression par moment que l'Assemblée nationale est une cour d'école? Bah, dites-le nous aussi au standard. 3-2-1-0.
À 13h50. Nous sommes donc avec Marilyn. Bonjour Marilyn.
Bonjour Pascal.
On va voir si vous êtes forte en télévision. J'ai un générique à vous proposer et vous allez me dire quelle est l'émission. Facile.
Alors là, je connais la musique, mais alors on va vous dire, c'était l'émission quand j'étais gamine, ça c'est sûr.
C'est une grande avenue aussi, Marilyn.
Ah mais c'était pas avec Drucker ?
Si. Exactement.
Ah, c'est ça.
Champs-Élysées. De toute façon, une émission avec Drucker, il y en a tellement que vous êtes sûr d'en avoir une. Bon, comment vous regardez la télévision ? Racontez-nous.
Je ne la regarde pas.
Ah bon ?
Je la regarde très peu. En fait, on a emménagé, on a eu la chance d'emménager dans une grande maison il y a 6 ans. Et j'ai mené un combat contre mes enfants et mon mari au moment des travaux en leur disant qu'il était hors de question d'avoir une télévision dans les lieux de vie. Et qu'on allait leur créer une family room, donc une pièce pour les enfants et les ados, et à ce moment, et que on mettra la télévision dans cette pièce, parce que je trouvais que c'était un élément polluant pour la famille, qu'on ne communiquait plus et personne ne se parlait, et qu'on restait bloqué devant la télévision. Donc ça a été très mal interprété au départ. Il en était hors de question pour mes enfants parce que très honnêtement, je regardais la télévision tout le temps. Dès le matin au réveil, les enfants mettaient la télévision. Et d'ailleurs, moi, à la longue, ça m'épuisait. J'en avais plutôt assez. Et lorsque j'éteignais la télévision, c'était des cris, des hurlements, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, je suis assez contente, même voire heureuse, parce que 6 ans après, mes enfants ne se posent plus la question. On ne regarde jamais la télé le soir.
Jamais.
On dîne ensemble, jamais.
Donc vous dînez à quelle heure le soir ?
On dîne les 19h30-20h.
Jusqu'à quelle heure ?
Jusque 21h à peu près.
D'accord. Donc, et après, qu'est-ce que chacun fait ?
Eh ben déjà, on communique, donc ça change beaucoup de choses dans une famille. On parle de phénomènes de société, de la vie de tous les jours, parce que les enfants aujourd'hui...
Mais ça, c'est pendant le dîner.
Pendant le dîner, mais c'est agréable. Mais parce que quand
je suis d'accord avec vous, mais vous pourriez dîner entre 19h et 20h et communiquer de la même manière, et pourquoi pas regarder un programme télé ensuite.
Oui, mais ça ne nous vient pas à l'idée, parce qu'on a pris l'habitude depuis 6 ans. Et déjà, en plus, là où on a mis la télévision, elle est en bas au sous-sol, donc on n'y va plus, parce qu'on ne la voit plus visuellement. Donc on se dit, tiens, on va allumer la télé, donc il faut descendre, c'est bête, mais bon, voilà.
Vous avez combien d'enfants ?
3.
D'accord. Ils ont quel âge ?
20 ans, 17 et 12.
Bon, donc à 21h, ils partent dans leur chambre regarder l'ordinateur et consommer de l'image via l'ordinateur,
non,
ou ils font autre
pas.
Chose ?
Non, parce qu'à 21h, alors le grand 17 ans, maintenant, on lui laisse le portable, il le gère super bien parce que il l'éteint et il travaille, du coup c'est court, il révise, il travaille, et la petite de 12 ans, à 19h30, elle a plus de portable, on lui prend le portable, et donc du coup, elle lit. On s'est tous mis à lire depuis 6 ans comme des dingues, et tous les 15 jours, on va à la bibliothèque chercher des livres du choix de ma fille de 12 ans, et mon fils, lui, potasse, et c'est un fan d'aviation.
Donc hier soir, par exemple, après le dîner, qui s'est achevé à 21h, vous êtes peut-être allé dans votre chambre ou dans le salon, et vous avez pris un bouquin, et vous êtes couché à 23h, j'imagine, c'est à peu près le rythme des Français lorsqu'ils... Bah non, mais tout le monde a un peu la même vie, c'est-à-dire que vous travaillez
Je travaille.
Bon, bah donc vous vous levez vers 7h du matin, j'imagine.
C'est ça, oui, 7h du matin.
Donc tout le monde dort à peu près 7h, 8h par jour pour être en pleine forme, en tout cas c'est mieux. Et là, donc hier soir, petit livre.
Et alors moi, un petit livre, mais la seule fois où on regarde la télévision, comme j'expliquais à votre collègue, c'est le week-end. Mmh. On s'autorise, enfin entre guillemets les enfants, et du coup c'est devenu super, parce qu'un soir dans le week-end, que ce soit le vendredi ou samedi, on regarde un film ou un documentaire. Du choix, on tourne chaque week-end, donc un coup mon mari, moi ou mes enfants, et on regarde en famille. Et c'est devenu un super moment, parce que quand on ne le fait pas, bah, mes enfants sont déçus. Ils me disent « Mais non, mais ce soir, du coup, on regarde pas un film ensemble, on ne fait pas un truc ensemble. » Mais c'est vrai qu'on a tendance à le faire plus l'hiver, parce qu'on a tendance à moins sortir. Donc on appelle ça l'instant coucouning. Mmh. Et on se fait énormément charrier par les amis, vraiment gentiment, parce qu'on se met sous la couette, on prend une couette, on prend des plaquettes de chocolat. Et c'est un super moment, on regarde un truc ensemble. Et sinon, la télé, bah, généralement, c'est des documentaires sportifs ou des matchs ou des choses comme ça. Donc hier soir, mon mari a regardé avec son fils le match de foot. Voilà.
Mais non, mais moi, je trouve que vous la disciplinez, la télévision, et vous avez bien raison, hein, évidemment. C'est pas tant à notre âge, d'ailleurs, que les dégâts peuvent être importants, parce que effectivement, nous, on est capable de se discipliner, mais peut-être que pour les plus jeunes... effectivement, les mettre devant les écrans tout le temps et toujours, ça peut être très grave. Il peut avoir des graves conséquences.
Ah, mais c'est un combat. Enfin,
oui, c'est un combat parce que c'est facile, en fait, la télé. Je suis d'accord. Alors que lire ou travailler, ça demande un effort. Évidemment, c'est bête à dire, mais tu te mets devant la télé, t'es passif, voilà, t'es tranquille.
Bah, oui,
et on est
ça.
Tous pareils, hein, là-dessus. On est tous pareils. Faut souvent se forcer. C'est faire un effort que de lire un livre. Ça, c'est incontestable. C'est du plaisir, mais c'est faire un effort. Petit, grand, moyen, mais c'est en faire un quand même. La télé,
non,
ça demande aucun effort. Tu te mets devant et puis tu zappes et puis il y a toujours un truc qui peut t'intéresser.
Mais aujourd'hui, mes enfants, par exemple, quand on va chez des amis ou de la famille qui ont, il y a la télé en fond qui tourne parce que
oui,
ça se passe
ça, c'est horrible.
Comme ça,
je suis d'accord avec vous.
Et mes enfants, à chaque fois, sont choqués, discrètement.
Non, mais c'est
quand
vrai, la télé
dis,
en permanence dans les. Bien sûr, la télé en permanence. La télé est plus grande que la pièce, parfois, en permanence.
c'est vrai
que c'est pas. En plus, c'est moche, une télé. Hein. C'est vrai qu'il faut pouvoir l'insérer dans un cadre parce que c'est pas toujours très joli. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut la discipliner. Voilà, il y a des choses qui sont formidables. Le match de foot, c'est formidable. Les documentaires, ça peut être formidable. L'information, c'est formidable. Mais il faut. Aussi faire de temps en temps autre chose. Merci Marilyn.
Merci à vous.
Vraiment merci. L'heure du crime.
Bonjour Pascal.
L'heure du crime. Est-ce qu'il y a
une supposition, hein. Je dis bien une supposition. Que j'ai un graveur du papier et que j'imprime pour 1 milliard
vous
de
reconnaissez, Pascal.
Bien sûr.
En admettant, c'est toujours une supposition.
Le cave se remet.
En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire.
1961.
C'est un portrait net.
Et 1961, justement, c'est l'année où sévit Czeslaw Bojarski. Je vous raconte aujourd'hui son histoire. C'est le plus grand des faussaires jamais enregistré par la police. Un type extraordinaire qui a sévi dans les années 50 et 60. 300 millions de francs à l'époque de faux billets fabriqués. C'est un type, un artisan. Il travaillait tout seul dans sa cave. Et pendant 12 ans, les policiers ont cherché qui pouvait être cette incroyable équipe. C'est un graveur de génie, un coloriste... inégalé, et c'est un type qui avait trouvé la recette pour fabriquer le papier filigrané. Alors je ne vous dis pas comment il fabriquait, parce que la recette a été gardée secrète par la Banque de France, mais il avait trouvé dans sa cave tout seul comment fabriquer ce papier. C'est une histoire extraordinaire, Czeslaw Bojarski, le plus grand des faussaires.
Et il y a une forme d'admiration, coupable sans doute, qu'on peut avoir, parce que c'est un criminel. C'est un crime, hein, la fausse monnaie.
Ah ben, c'était écrit,
c'est pas un délit, hein, c'est un crime.
C'était écrit sur les billets de francs, si vous voulez, à l'époque. C'était puni par la perpétuité. Il va écoper de 20 ans quand même de prison, mais avec une admiration des policiers et de la Banque de France qui ne fera pas défaut.
13h57, le flash dans une seconde et nous terminerons cette semaine en parlant de la télévision avec les auditeurs. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Passion.
Il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin.
Le dernier adieu au boss à Marseille. Les obsèques de Bernard Tapie se sont achevées tout à l'heure. Tu n'as pas été maire de Marseille, tu as été Marseille, a notamment déclaré son ami Jean-Louis Borloo au cours de la cérémonie. L'homme d'affaires va maintenant être inhumé dans la cité phocéenne au cimetière de Mazargues. Le Nobel de la paix remis à deux journalistes, une Philippine et un Russe, pour leur travail en faveur de la liberté d'expression dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables. D'après la présidente présidente du comité du prix. 11 personnes interpellées ce matin en Seine-Maritime dans une affaire de stupéfiants. La maire de Canteleu, également vice-présidente de la métropole de Rouen, est pour le moment en garde à vue pour complicité de trafic de stupéfiants sans être soupçonnée d'y avoir pris une part active. D'après les informations de RTL, l'enquête dure depuis 2 ans et on parlerait du plus gros trafic de l'agglomération rouennaise. Au moins 50 morts et 140 blessés dans l'explosion d'une mosquée en Afghanistan, un bilan provisoire et qui devrait s'alourdir selon les ONG sur place. Et puis on connaît désormais la ville où va se dérouler la prochaine édition de l'Eurovision. L'an prochain, ce sera à Turin, en Italie. Avant cela, la ville accueillera dimanche après-midi le match pour la 3e place de la Ligue des Nations en football entre l'Italie et la Belgique. La France, elle, jouera la finale dimanche soir à Milan face à l'Espagne. Après sa victoire hier 3-2 face au Diable Rouge, ce sera au programme de RTL Foot. Rendez-vous à 20h. Le temps demain, ce sera comme aujourd'hui, du soleil sur une grande partie du pays, des nuages, des Pyrénées au Massif central et à la région lyonnaise, ainsi que sur la Corse avec quelques ondées possibles. Les températures demain matin de 3 à 10 degrés l'après-midi jusqu'à 24 en Méditerranée. Les courses, c'est à Vincennes à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 5, le 16, le 10, le 7, le 3. L'As, la dernière minute, c'est le 5. 14h02 sur RTL. Et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal.
Hortense, évidemment, l'Eurovision est à Turin parce que c'est l'Italie qui a gagné l'an passé.
L'Italie a gagné, tout à fait.
Donc autrement, ça aurait suite été en France.
Suite été, mais voilà,
mais nous n'avons pas gagné. Est-ce que nous serons favoris
cette année ? Deuxième place.
Ce serait bien.
Ce serait bien, avec Barbara Pravi cette année.
14h02.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors Jacques, comment vous regardez la télévision ? C'est un peu notre idée aujourd'hui, notre discussion, puisque nous rendons hommage à Étienne Moujotte. On a écouté également Jean-Pierre Foucault. C'est vrai que la télévision, elle a beaucoup changé ces dernières années, que chacun la consomme un peu de son côté, ce qui fait qu'on ne partage plus, qu'on n'aura peut-être plus non plus de souvenirs en commun. Mais on va être avec Jacques. Bonjour Jacques.
Bonjour Pascal.
Qu'est-ce que vous aimez à la télé ? Ça va bien ? Qu'est-ce que vous aimez à la télé ?
Je suis un enfant de la télé et je consomme énormément de télé, de radio aussi. J'adore ça. Depuis... que je suis gamin, je me souviens, on regardait la télé avec mes parents, le soir en famille, on regardait les émissions de Guy Lux à l'époque, des émissions de variété. C'était vraiment un partage en famille, on se mettait dans le canapé, on regardait ça. Et puis après,
on va faire le jeu des génériques, alors on va voir si vous êtes fort, Jacques. On va voir, on fait le jeu des génériques. Je vous propose, c'est Damien Béchiot qui vous propose ce générique.
Pour ce générique-là, Pascal, c'est Olivier qui va le chanter directement.
Allons-y.
Voilà, on m'a forcé.
Non, mais attendez. On a peut-être les moyens à RTL d'écouter des vraies chansons, on n'est pas. Non, donnez-moi la version originale, j'ai rien compris.
Vous l'avez là, Pascal, c'est le juste prix. Enfin, c'était le juste prix.
Ah oui, mais c'est Jacques qui doit répondre, c'est pas vous, Damien.
C'est vrai, Pascal.
Enfin, vous n'avez pas compris du tout. Non, mais j'ai l'impression, je veux bien que ce soit vendredi.
C'est vendredi, Pascal.
Mais quand même, soyez un peu concentrés et disciplinés. Je vous propose le jeu des génériques avec Jacques. Il y en a un qui chante et l'autre qui donne la réponse.
Bon,
vous avez un autre générique ?
Bien sûr.
Allez, un autre générique pour Jacques. Jacques, est-ce que vous vous souvenez de ce générique ?
C'est pas le juste prix, un truc comme ça ?
Non.
Non, Jacques.
Non. C'est quoi ?
Question pour un champion.
Question pour un champion, oui, putain, oui, c'est pas grave.
Bon, qu'est-ce que vous avez regardé ? D'abord, est-ce que vous avez regardé la télévision depuis ce matin, Jacques ?
Ah oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire, je suis quelqu'un qui dort très très peu. Mais très très peu, quand je vous dis très peu, c'est 3 heures par nuit. Donc, je consomme énormément, je vis seul depuis quelques paires d'années. Et moi, la télé fait partie de mon environnement. Donc, vous voyez, ce matin, j'ai regardé l'hommage à Bernard Tapie à la télé. Mmh. Et simplement pour vous dire, c'est la première fois que je vois autant de monde à l'enterrement d'un président de club. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans ma vie.
Ah oui, je vous confirme que pour un président de club de foot, c'était un enterrement de président de la République, quasiment celui de Bernard Tapie. Mais vous dormez 3 heures par nuit, ce qui est vraiment très peu, pour le coup. Donc tout le temps de la nuit est consacré à l'image ?
Je consomme beaucoup, j'adore les actualités, les débats politiques, j'aime les séries, donc je suis vraiment un enfant de la télé, j'adore la télé, j'aime la télé. Et je me souviens, on était en famille à l'époque, la télé faisait partie du foyer. Mmh. Et comment à l'époque, alors maintenant, bien évidemment, vous avez les réseaux sociaux où je ne vais pas du tout, je ne communique aucunement sur les réseaux sociaux, où on voit des choses horribles.
Et quels sont vos grands souvenirs de télévision, les émissions qui vous ont marqué ? Ah, Jacques, malheureusement, Jacques doit regarder la télévision, Jacques puisque ça a coupé immédiatement. François est avec nous, bonjour François.
Bonjour Monsieur Pro, comment allez-vous ?
On va vous écouter juste après une pause de quelques secondes. A tout de suite François.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
François, avant d'entamer la discussion, on a ce petit jeu des génériques télé. Donc, je vous propose.
J'avais trouvé Champs-Élysées, mais alors, est-ce que je vais trouver.
Alors là, je vous propose ce générique.
C'est apostrophe.
Bravo ! Magnifique !
Bravo, François. C'est Olivier qui joue au piano.
Et c'était rigolo parce que apostrophe passait à 21h30 le vendredi.
Oui, et je regardais.
Eh oui, mais c'est ça qui était formidable. Moi, j'ai la nostalgie parfois de cette télé que je trouvais à la fois grand public, populaire et quand même intéressante.
Alors oui, parce qu'il y avait même, je me rappelle bien, de Solzhenitsyn avec Bernard Pivot.
Bien sûr.
C'est magnifique, extraordinaire.
Bon, qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui à la télé ? Comment vous la consommez ?
Je la consomme différemment de mes enfants, parce que mes enfants sont grands. Les enfants consomment des réseaux sociaux, des commentaires de commentaires de commentaires. Moi, je vais à la source. Je vous regarde assez régulièrement. Mmh. Je vous enregistre même pour pouvoir vous regarder l'après-midi parce que je travaille que le matin. Je suis handicapé, donc c'est pour ça. J'ai 5 enfants, dont 3 grands. Mmh. Et ils consomment essentiellement des réseaux sociaux. Donc, des commentaires. Ce qui fait qu'avec mes propres enfants, j'ai des sujets de discussion, mais âpres, parce que moi, je vais à la source. Eux, ils vont ailleurs. Je leur dis, mais allez donc à la source pour vérifier ce que vous êtes en train d'écouter, d'entendre. Et c'est un gros problème, c'est vraiment un gros fossé de génération. C'est ce que je disais à votre jeune et éminent journaliste il y a 25 ans, je crois, qui m'a dit, bah oui, effectivement, il y a un gros souci, un gros fossé.
C'est une manière de consommer différemment. C'est vrai qu'on ne se réunit plus tous ensemble pour partager, mais on le dit depuis tout à l'heure. Vous, aujourd'hui, par exemple, quelles sont les dernières émissions que vous avez regardées à la télévision ?
Je regarde les chaînes d'information continue.
Ouais.
Je vous regarde très régulièrement.
Vous êtes gentil, mais...
Je ne vais pas dire de bêtises, c'est vrai. Voilà. Essentiellement le cinéma, j'aime bien le cinéma.
Ouais.
Les reportages télé.
Donc vous êtes très info quand même et très...
Très info, mais très consommateur de télé quand même.
Ouais. Pas beaucoup de télé-réalité ?
Ah non, j'aime pas ça. Ouais. Sauf Koh-Lanta.
Ouais, c'est marrant parce que c'est générationnel. La télé-réalité, c'est moins c'est un public plutôt jeune, disons-le.
C'est affligeant. Je trouve ça affligeant.
Ah, c'est les goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Parfois, ça peut être aussi. Ça dépend des télé-réalités. Par exemple, il y a des émissions sur la cuisine qui sont notamment sur M6.
Oui,
ça peut ressembler de Top Chef. C'est de la télé-réalité. Et c'est plutôt réussi.
Ah oui, mais c'est mieux que si vous voulez Top Chef. Il y a un côté, je dirais, on apprend, on aime, puis quand on aime cuisiner, c'est encore mieux. Koh-Lanta, il y a un petit peu de bon. Le Koh-Lanta, c'est vraiment parfois on a l'impression que c'est du, on livre ses propres impressions sur les uns sur les autres. Ça déblatère, ça fusille à tour de bras. Ça devient de moins en moins intéressant. Mais c'est vrai que autrement, c'est que du paraître. C'est superficiel. Il y a rien de. Sincèrement, je trouve que ça rend pas intelligent, quoi. Faut aller plus loin, quoi.
Et quels sont vos grands souvenirs de télévision ?
Mon grand souvenir de télévision, c'est en 1974, lors de la mort du président Pompidou, où je regardais
les dossiers de l'écran.
Les dossiers de l'écran, en plein milieu, boum, c'était l'homme de Kiev, les dossiers de l'écran.
Et vous vous souvenez du journaliste qui est apparu à l'antenne ?
Pas du tout.
C'est Philippe Arouard qui est apparu à l'antenne pour dire le président Georges Pompidou est mort ce soir à 21h.
Ouais. Autrement, l'heure est grave. Comment il s'appelait l'heure comment il s'appelle
Roger Jiquel.
Roger.
Quand il dit voilà, avec l'heure est grave, j'ai deviné. Ouais, c'est la France a peur.
La France a peur. C'est ça.
L'heure est grave, mais bon. Ouais. C'était à l'occasion de la mort du petit Philippe Bertrand. Il avait été tué par Patrick Henry.
Oui,
je crois qu'on est en février 76, peut-être, me semble-t-il. La France
l'avait caché sous son lit.
Mais ça, c'est des souvenirs que chacun a. Parce que le journal de Roger Jiquel en 1976 ou 77, il est peut-être suivi par 20 ou 25 millions de téléspectateurs. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que les gens étaient beaucoup plus stars qu'aujourd'hui à la télévision parce qu'il n'y avait que deux chaînes. Il n'y avait pas de journal sur France 3. Quoi, à l'époque, on disait FR3. Il y avait, je crois, les jeux de 20h à cette époque-là. Il y avait le journal de TF1 et le journal de Antenne 2. On disait Antenne 2.
Et vous me parlez d'un grand souvenir, la tête et les jambes. Ça, pour moi, c'est un souvenir terrible.
Jean-Paul Roulant.
Je regardais régulièrement. Ah oui.
Pierre Bellemare.
C'était chouette, ça. Oui, Pierre Bellemare.
Bien sûr. Ouais. Merci,
ça, c'est
François.
Des grands souvenirs.
Merci. Voilà. Vous habitez Nantes ?
J'habite Nantes. Je vous ai pour la troisième fois. Je suis très content de vous avoir.
Et ben c'est gentil.
Et comme je sais qu'on est de la même génération à peu près, vous êtes mon aîné de 3 ans, je vous dois le respect, n'est-ce pas ?
Vous êtes de 67 ?
66.
66, moi je suis de 64.
Eh ben écoutez, voyez, comme quoi... Mais sincèrement, c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup votre liberté de ton. Ben ça change beaucoup.
Voilà. Vous êtes gentil, François. Merci, vraiment, vous êtes adorable.
C'est adorable, la pause. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui est adorable. Vous le savez très bien.
Oui, certes, mais vous aussi. Celui qui a une liberté de ton également très grande, et même, elle nous inquiète, cette liberté de ton, c'est Olivier.
Trop grande, peut-être même.
Vous trouvez trop grande ? Dit.
Sûrement.
Bon, Olivier, pas de message particulier ?
Bah si, parce que j'en ai quelques-uns, si vous voulez.
Eh bien, allez-y.
Après la pub, peut-être, non ? Je ne sais pas.
Après la pub, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors on va prendre un jeune. Comment consomme-t-il la télévision ? C'est Grégoire qui a 26 ans. Bonjour Grégoire.
Bonjour Pascal Pro, bonjour à toute l'équipe des auditeurs.
Et merci d'être avec nous. Comment vous regardez la télévision ?
Alors disons que ma consommation de la télévision a beaucoup changé ces derniers temps. À l'époque où j'habitais encore chez mes parents, jadis, comme vous dites souvent, j'avais l'habitude justement on avait l'habitude de se mettre autour de la table, de regarder les informations du soir et d'enchaîner avec le film ou l'émission de variété qui suivait. Et depuis en fait que je suis indépendant et j'habite indépendamment de mes parents, mais si vous voulez, je me suis plus concentré sur les plateformes de streaming payantes et des chaînes cryptées payantes, parce que je suis un grand amateur de sport et aujourd'hui le sport se trouve beaucoup sur les chaînes de télévision payantes.
C'est vrai. D'ailleurs, c'est un problème parce que le football, notamment, mis à part l'équipe de France, c'est très difficile de voir du football sur une télé payante.
C'est ça. Et aujourd'hui, on ne trouve que du football. Et comme vous dites, c'est l'équipe nationale qu'on peut voir ou des grandes compétitions. Et encore, parce que avec des champions, maintenant, on n'y est plus. Mais derrière, en tant que grand amateur de sport automobile, on se retrouve aussi à devoir payer des abonnements. Alors, c'est pas sans nous déplaire, parce qu'on est... c'est ce que j'ai dit aussi à votre standardiste, on n'a pas de la publicité, qui parfois, c'est aussi ce qui nous rebute un petit peu chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une omniprésence de la publicité dans les programmes de télévision qui font qu'au bout d'un moment, même sur un programme qu'on apprécie, on finit par lâcher.
Bon, en tout cas, manifestement, vous regardez la télévision en famille à plusieurs, c'est un phénomène qui est passé.
On le fait encore de temps en temps, quand on se retrouve autour de la table, et autour d'un programme qu'on aime bien, ou un film autour duquel on va passer un beau moment, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est aussi récurrent qu'il y a quelques années.
Qu'est-ce que vous consommez à la télévision dans les programmes dits de flux aujourd'hui ? Il y a des programmes de variété que vous regardez ? Il y a des programmes de télé-réalité ?
Non, plus tellement. Et en télé-réalité, il y en a une seule, et on l'a cité tout à l'heure, c'était Koh-Lanta. Un de vos auditeurs en a parlé. Et même Koh-Lanta, si vous voulez, pour éviter les publicités et en fait, l'horaire de démarrage du programme, en fait, je le regarde en replay le lendemain.
Oui, alors donc vous êtes vraiment dans la consommation nouvelle des gens de qui sont les plus jeunes, c'est-à-dire que vous regardez en ce qu'on appelle en délinéarisation, de manière délinéaire, c'est-à-dire que vous regardez pas avec les autres. Il y avait un concept dans les années 60, 70, 80, c'était la télévision qui était cérémonielle, c'est-à-dire que tout un peuple la regardait ensemble. Et le fait que le voisin regarde le même programme que vous, participez à votre plaisir. Alors c'est étonnant parce qu'on ne savait pas, quoi, on le savait plus exactement, mais il n'était pas avec nous, mais on savait qu'il regardait le même programme que nous et le lendemain on pouvait en parler ensemble, pourquoi pas au bureau ou dans une cour d'école. C'est le concept de la télévision dite cérémonielle. Et ce concept évidemment a volé en éclat aujourd'hui puisque chacun regarde de son côté la télévision.
Alors, je dirais pas qu'il a volé en éclat, je dirais plus qu'il s'est déplacé. Et je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre personnes de la même génération, on va parler de la dernière série qu'on a regardée sur une plateforme de payante.
Ouais.
Et donc, en fait, ce phénomène social s'est déplacé sur ces plateformes-là, et ce n'est plus de la télévision dont on parle, mais de ces séries qu'on peut trouver sur la chaîne.
Et vous, par exemple, quels sont les derniers programmes, alors séries que vous avez vues, peut-être sur une plateforme ou
Alors, la dernière
vous avez aimé
c'est qui a créé un phénomène, c'est Squid Game sur Netflix, pour ne pas citer, que j'ai regardé. Ensuite, il y a tout le documentaire sur Michael Schumacher, je veux dire, en tant qu'amateur de sport automobile, qu'on trouve aussi sur Netflix, que j'ai pu regarder, et autour desquels, en fait, je discute avec mes connaissances, avec mes amis et ma famille.
Ouais, non, mais c'est très pointu, c'est-à-dire chacun vient vraiment chercher son marché. Vous regardez beaucoup d'images dans une journée, beaucoup de programmes ?
Uniquement le soir en rentrant du travail, pour me vider la tête, on va dire.
Et est-ce que vous bouquinez ? Est-ce que vous lisez ?
Ça ne m'empêche pas de lire. En plus, c'est week-end, là où j'ai un peu plus de temps. Mmh. Ça ne m'en empêche pas. Voilà, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses, hein, et puis limiter sa consommation des écrans aussi. Mais voilà, ça limite aussi de temps de passer devant la télévision, puisqu'on en est à ça.
Ben merci, vraiment merci beaucoup Grégoire. Et puis c'était une manière de rendre hommage à ce grand professionnel de l'audiovisuel, passé par la radio, la télévision et la presse écrite. Étienne Moujotte était un journaliste jusqu'au bout des ongles, un journaliste qui sent l'info, qui connaît le public, qui devine ses intérêts. Alchimie d'intuition, d'expérience, de savoir. Il avait dirigé Europe 1, le journal du dimanche, Télé 7 jours, le Figaro, Radio Classique. Il restera aussi l'homme qui a incarné l'antenne de TF1. C'est l'heure du débrief avec notre ami Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Comment regardez-vous la télévision ? Suivez-vous les émissions en direct ou en replay ? Tiens, Nathalie par exemple.
Qu'est-ce que vous avez regardé hier soir ?
Alors, hier soir, nous avons regardé les informations. Donc, une chaîne où vous êtes principalement le héros.
Oh, Pascal Pro, le Clark Kent de RTL. Et on a joué ces rôles aujourd'hui avec les génériques des émissions, des séries qui nous ont marqués avec un petit concours de chant. Musique, Damien.
Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir.
Et surtout, tout entendre, c'est à vous, Pascal, la nouvelle star de Noirmoutier, là.
Merci, venu le temps de l'île aux enfants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps.
Le printemps.
C'est le pays joyeux des enfants heureux. Des monstres gentils, oui, c'est un paradis.
Quelle belle interprétation, Jean-Alphonse Richard applaudit. Et tiens, il nous faut un autre joueur pour un duel intense. Qui pour se mesurer à vous, Pascal ?
Monsieur Boubouk !
Oh, alors quel générique, quelle chanson va interpréter Monsieur Boubouk, venu tout droit de Savoie ?
Non, 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 non,
non, non, non, non, non, mais attendez, on a peut-être les moyens à RTL d'écouter des vraies chansons.
Bon, quelle chanson m'inspire en écoutant Monsieur Boubouk ? Ah oui, on est en plein dedans. Mais il nous faut un vainqueur.
L'un de vous deux a été choisi par le public. Enregistrer un album et signer un contrat d'1 million d'euros, c'est le prix.
Oh là là, grosse récompense. Désignez le gagnant vous-même, Pascal.
Monsieur Boubouk.
Et bravo, Monsieur Boubouk. Tiens, faisons un autre jeu avec Marilyn.
Quelle est l'émission ? Facile.
Alors là, je connais la musique, mais alors on va vous dire, c'était l'émission quand j'étais gamine, ça c'est sûr.
C'est une grande avenue aussi, Marilyn.
Mais c'était pas avec Drucker.
Ah, Champs-Élysées. Bon, je crois que notre monsieur réseaux sociaux aussi a besoin de souffler après plus d'un mois d'émission. Peut-être que Nathalie peut nous aider.
Vous avez un institut de relaxation ?
Oui, c'est ça. Je masse et je détends les gens qui sont très stressés.
Ah, ça tombe bien. Essayons de négocier quelque chose.
Ah, donc par exemple, monsieur Olivier de la page Facebook peut venir vous voir ce week-end.
Ah, avec grand plaisir.
Voilà,
dans le Haut-Rhin, vous pourriez le masser.
Voilà,
en tout bien, tout honneur, bien évidemment.
Ah, bien évidemment. Allez, un dernier mot, Pascal, avant de se quitter.
Dis-moi, Brock, pourquoi as-tu mis de la colle dans ma confiture ?
Très bien, c'est noté. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui résume cette émission aujourd'hui. C'est parti en live.
Oh, qu'est-ce que, mais je suis sûr que Jean-Alphonse Richard, puisque nous sommes de la même génération, a à peu près les mêmes souvenirs que moi.
J'adore,
en télé.
J'adore, oui.
Rock et Schnock, c'était deux personnages un peu verts dans un vaisseau spécial fait en carton
verdâtre
qui partait vers on ne sait où. Ouais. Et le mercredi après-midi, Rock et Schnock.
Qui ont fini par se cracher.
Belle histoire.
Bon,
mon cher Brock, je vous propose aujourd'hui, un vendredi, le roi des faussaires.
Oui, ça c'est formidable.
Incroyable histoire de Czeslaw Bojarski.
Ah oui.
De tout temps d'ailleurs, le plus grand faussaire qui soit. Pendant 12 ans, il a fait tourner en bourrique les policiers et la Banque de France. Et on va raconter son histoire surprenante.
Et ben avec plaisir.
Un artisan du faux bifton.
Et ben merci. À plus tard.
À plus tard.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic